Comment Renard entra dans le puits et en sortit sans grief? Et comment Ezengrin y entra mais n'en sortit pas sans grand dommage?
Renard était allé chasser et il revenait bredouille. La faim le tourmentait, mais encore plus le chagrin de ne rien rapporter au logis, car si Renard est mauvais compagnon, il est bon époux et bon père.
Il rentrait donc lentement et comme à regret, espérant, malgré tout, quelques aubaines fructueuses, quant au jour finissant, il se trouva près d'une abbaye de moines au blanc manteau. Comme il se couchait à l'abri d'un buisson, il entendit, tout proche, le caquetage un peu lasse de poules qui s'apprêtent à rentrer pour dormir. Il dresse l'oreille et, se guidant sur le bruit, arrive au poulailler. Il rôde un instant au pied du mur, avise une porte, la pousse afin d'en approuver la résistance. Elle cède du premier coup. Voici Renard dans la place.
À la vue du goûton, les poules hâtent leur course pour se mettre à l'abri et crient un peu plus fort. Non, assez toutefois, pour donner l'alarme. Deux d'entre elles, plus paresseuses ou plus endormies, restent en arrière. Renard les zappe sans difficulté, en mange une et conserve l'autre pour Hermeline et ses petits, Malbranche et Perceval.
Il se félicite de cette chance sur laquelle il n'osait plus compter, sans néanmoins se trouver complètement satisfait, car la soif le tourmente. La journée était chaude, la course fatigante, et il n'a rencontré aucun ruisseau, aucun étang. Il tire donc désespérément la langue.
Il y a bien là un puits qui sert au blanc manteau.
Mais Renard n'en connaît pas la manœuvre.
L'eau est profonde, comment faire pour l'atteindre?
Dès de saut, l'on plonge dans le puits, l'eau se trouve suspendue à portée de la main.
Renard grimpe sur la margelle. Il raisonne, il calcule sans trouver de solution pratique. Découragé, il contemple le fond du gouffre, dont le miroitement liquide vient irriter sa soif. Enfin, il se résout au moyen héroïque, il saisit la corde et tente de remonter le seau plein. Mais le fardeau n'est pas en rapport avec ses forces. Et ploche, Renard pique une tête dans le puits.
L'eau est maintenant à sa disposition et il peut boire à son gré. Mais il n'y songe plus, car la soif a fait place chez lui à la surprise, puis à la terreur.
Que vais-je devenir? Quoi et comment à sortir seulement?
Lui, le grand attrapeur, le voilà bien attrapé. Tremblant, il s'agriffe d'une patte à la corde, de l'autre, à l'anse du seau qui flotte, en viant les ailes de Tiercelin et les griffes de Tibère. Or, le hasard de la chasse amène Ezengrin dans ces parages. Il n'a pas été plus heureux que Renard, et comme lui, il rentre bredouille. Comme lui, il souffre de faim, de soif, de fatigue.
Soudain, il aperçoit la poule étranglée par Renard et destinée à sa famille. Ezengrin n'en fait qu'une bouchée.
Voilà un bon manger, un peu léger mais fort délicat, seulement c'est boire qu'il faudrait. L'eau du puits est abondante et fraîche, mais comment l'atteindre? Vraiment, les hommes ont de bizarres inventions. Ils ne songent point à mettre l'eau à la portée des gens qui ont soif.
Le loup pose ses pattes de devant sur le bord du puits, tout en poursuivant son monologue sur la sottise et la malveillance des hommes. Quand une voix qui monte du fond le fait tressaillir.
Qui va là-haut? Qui se permet de parler? Qui vient troubler dans le repos des bienheureux du paradis?
Qu'est ceci?
Et plonge son regard dans le puits. Il pousse une exclamation de surprise.
Mais c'est Renard, si j'en crois mes yeux.
Croyez en vos yeux, mon oncle. C'est bien moi. Ou c'est plutôt mon âme, car je suis mort.
Vous êtes mort? Qu'est-ce donc ce mystère? N'y a-t-il pas là-dessous quelque nouvelle attrape?
Pas le moindre. Je suis mort.
Ma foi, je ne suis pas trop fâché à dire vrai. Mais depuis combien de temps êtes-vous mort?
Depuis 2 jours.
En êtes-vous sûr? Il me semble que pas plus vieux que ce matin, je vous ai vu courir les bois.
C'est que mon corps est resté sur terre. En ce moment, il repose à Maupertuis, auprès de mon Hermeline bien-aimée.
Voilà qui est étrange, et je ne me fie pas trop à cette mort-là. Vous avez tant de tours dans votre sac.
Prenez garde, mon oncle. Dans votre intérêt, même je vous engage à me traiter avec plus d'irrévérence que du temps où j'étais en vie.
Je ne demande pas mieux. Puisqu'aussi bien, vous voilà mort, et même, tenez, je crois que je suis un peu chagrin de votre trépas.
Moi, non. Je suis maintenant si heureux qu'on ne saurait imaginer. Sur terre, félicité pareille.
Comment cela? Le bonheur parfait se trouve-t-il donc au fond des puits?
Je ne sais, mais ce que je possède ici dépasse la compréhension des vivants. Des prairies en fleurs, des forêts verdoyantes, des moissons superbes, des troupeaux innombrables. Et de la volaille, du gibier, du poisson. Trop de tout, pourrait-on dire. La preuve en est. Cette poule que j'ai dû jeter, cherchez-la, Isandra. Si vous la trouvez, je vous l'offre de bon cœur.
Isandra, qui savait à quoi s'en tenir au sujet de la poule, ne prit pas la peine de chercher. Il demanda.
Vous êtes donc en paradis?
Comme vous le dites, mon oncle.
La nuit était venue. Des milliers d'étoiles brillaient au firmament et se reflétaient sur l'eau du puits.
Voyez toutes ces lumières qui m'entourent? N'y trouvez pas la preuve que je suis dans la gloire éternelle?
C'est ma foi vrai. Mais quel paradis que celui où l'on possède volailles et venaisons en telle abondance?
Mon oncle, je vais oublier toutes les mauvaises dispositions que vous me témoignâtes au temps où j'étais sur terre. Venez près de moi, je vous ménagerai une bonne place.
Je vous en serai le plus obligé du monde. Mais comment vous rejoindre?
Mettez-vous sur le seau qui est sur la bargelle, cramponnez-vous à la corde, donnez un coup de rein et laissez-vous aller.
Isandra, suivant l'avis de ce compère bienheureux, entre dans le seau et se cramponne à la corde. Alors, cédant à ce nouveau contrepoids, le seau plus léger où se trouvait Renard remonte au fur et à mesure que l'autre descend. Arrivé au bord, Renard saute à pieds joints et file sans demander son reste. La surprise, puis la rage d'Isandra ne se peuvent décrire.
Ah, maudit roux, faudrait-il que jusqu'à mon dernier souffle tu m'aies trompé et que je me sois laissé prendre.
Au petit matin, un frère laid des blancs manteaux vient puiser de l'eau pour les besoins du service. Il tire la corde comme à son habitude, mais en vain, il ne peut amener le seau. Après plusieurs tentatives infructueuses, il regarde au fond du puits et aperçoit Isandra.
Au loup qui est dans le puits!
Les moines croient que leur frère tombe dément et ils courent à son aide. Mais une fois sur place, on est bien forcé de convenir qu'il dit vrai et que si étrange que cela paraisse, le loup est bien dans le puits. On s'assemble en conciliabule et l'on délibère sur les mesures à prendre.
Quelques-uns voudraient qu'on laisse Isandra où il est jusqu'à ce qu'il trépasse.
Mais combien de temps mettra-t-il à trépasser? On a besoin d'eau tout de suite. Et la rivière est loin. D'autre part, la charogne empoisonnera le puits. Non, il faut sortir coûte que coûte. Seulement, on doit se mettre en état de défense. On apporte sur les lieux tout ce qu'il y a d'instruments au monastère. Haches, pieux, fourches, bâtons, massues, etc.
Chacun s'arme suivant ses capacités et l'on forme un cercle très serré à quelques distances du puits.
Attelons à la corde une bourrique forte et courageuse.
Après bien des efforts, la bourrique ramène au jour le contenant et le contenu. Alors les blancs manteaux tombent sur Isandra à tour de bras et frappent qui à la tête. Qui sur les chines, qui sur les pattes. Tant et si bien qu'il le laisse pour mort étendu sur le sol. Puis la cloche sonnant matine, les moines se rendent au cœur abandonnant celui qui croit défunt, mais Isandra n'était pas tout à fait trépassé.
Sanglant, assommé, rompu, il se traîne jusqu'au bois et retrouve Giromonde qui se désespère de le voir en pareil état. On appela les mires les plus fameux qu'ils employèrent pour le soigner. On ne sait combien d'emplâtres, des lectuaires, d'opias, d'ongons.
Ah, à la cour du roi se trouvent des juges. Et là que nous irons porter notre clameur, égard au bandit le jour où il sera jugé par ses pairs.